Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, nous allons parler cette fois-ci des méga bassines et au-delà, bien entendu, de la question de la ressource en eau et de cette répression policière terrible qui a eu lieu à Sainte-Soline, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc on va revenir sur l'ensemble de ces sujets. Et pour m'y aider, j'ai deux participants en face de moi dans le studio qui précisément étaient sur place à Sainte-Soline. Bonjour, alors peut-être de présenter nos invités, pourquoi ils étaient mobilisés. Donc je leur donne la parole brièvement pour dire qui ils sont.
Bonjour, moi je suis monté ce week-end-là sur le Festival de l'eau et sur les trois jours pour participer aux tables rondes qui étaient organisées par les Soulèvements de la Terre et la Confédération Paysanne. Et j'en ai aussi profité pour participer à cette manifestation dans une démarche pacifiste.
Donc, une pacifiste en face de nous et un deuxième invité.
Oui, bonjour, moi je suis artisan dans le Tarn-et-Garonne. Je suis très intéressé par rapport à tout ce qui est gestion de l'eau et l'agriculture, parce que je suis aussi fils de paysan. J'ai aussi un diplôme de chimie dans l'environnement. Et j'ai aussi un diplôme d'horticole, même si je le fais pas, je suis pas horticulteur, je suis artisan. Et donc nous sommes partis en covoiturage à partir de Caussade. On est arrivé le vendredi soir parce que justement dans la ville de Mel, qui avait organisé avec tous les le collectif Pas une bassine de plus le festival de l'eau. Il y avait des assemblées le vendredi soir, des tables rondes sur la gestion de l'eau. Et le samedi, alors bon, en allant déjà, on a été plusieurs fois fouillés par les gendarmes locaux dans les Deux-Sèvres. Déjà, ça a commencé à 20 km de la ville de Mel. Puis on est arrivé à Mel, là aussi on a été fouillé plusieurs fois. Après, les gens me posaient la question pourquoi vous êtes venus. On disait qu'on était venus parce que ça nous intéressait la gestion de l'eau et on voulait participer aux tables rondes. Donc ils étaient curieux, etc. On a bien discuté. Le samedi, on est allé à la manifestation. Et le dimanche, après, il y avait encore le festival qui continuait, donc voilà.
Donc deux témoins directs, donc on va préciser un peu les affaires. Qui est-ce qui pourrait d'abord m'expliquer c'est quoi une méga bassine? Puisque c'est un jargon nouveau, alors qu'est-ce qu'on appelle une méga bassine?
Alors une méga bassine, c'est contrairement à ce qu'on connaît ici dans le Tarn-et-Garonne, on a des retenues collinaires avec des petits barrages. Là-bas, non, c'est en fait, ils rasent sur des hectares entiers, ils font un trou, etc. Ils bétonnent, ils mettent du plastique par-dessus, et ils vont prélever de l'eau qui sont dans les nappes phréatiques pour les mettre en surface. Alors que nous, ici, c'est des retenues collinaires, c'est-à-dire que c'est la pluie qui tombe sur les collines et puis ça remplit nos réservoirs d'eau. Là, non, ils vont prélever de l'eau qui est déjà dans les nappes phréatiques. Alors, ils disent un des arguments des probassines, c'est que pour éviter qu'il y ait du prélèvement d'eau dans les nappes et dans les rivières pendant l'été, mais ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils remplissent donc l'hiver ces bassines et ils prennent pas en compte l'évaporation qu'il y a sur tous ces hectares, parce qu'il y a, sur les 16 bassines, il y en a qui font plus de 10 hectares. Et donc c'est quelque chose de totalement nouveau. Et il n'y a d'ailleurs aucune étude scientifique qui corrobore cette bonne utilisation, quoi.
Alors, on voit que c'est relativement nouveau, qu'on pompe dans la nappe phréatique. Alors moi, on m'avait dit, je fais un petit peu l'innocent, que c'était rempli par l'eau de pluie, les méga bassines.
Non, alors c'est sûr que non. Il y a bien il y a eu une étude de fait par le BRGM avant l'épisode caniculaire de cet été, Cette étude, d'ailleurs, elle remonte à une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Dans l'idée, la mégabassine est remplie par un pompage dans la nappe phréatique l'hiver. L'étude disait que, donc à cette époque-là, les nappes phréatiques étaient quasiment à 80% remplies l'hiver. Et donc, ça permettait de faire une économie d'eau l'été, en fait, parce qu'on pompait l'hiver, on remplissait la bassine, et ce remplissage servait l'été pour évidemment que certaines exploitations agricoles, grandes consommatrices d'eau, comme le maïs semence, par exemple.
Alors...
Mais aujourd'hui, le BRGM vient de faire un communiqué disant que cette étude avait été faite à une époque où on n'était pas dans un réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on sait, il y a une carte nationale qui est sortie sur l'état des nappes phréatiques. Et on sait aujourd'hui que en moyenne, nos nappes phréatiques ne sont remplies que à 20 voire 30% à la fin de l'hiver. Donc le BRGM vient de dire faites attention à notre étude, elle n'est plus valable au vu de ce qui se passe au niveau climatique ces deux dernières années.
Donc un premier problème, c'est que pomper dans la nappe phréatique, encore faut-il que cette nappe phréatique soit relativement inépuisable, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on aura l'occasion d'y revenir sur le cycle de l'eau, on a déjà ce problème-là. Alors la question qui vient tout de suite derrière, c'est pour le compte de qui ces mégabassines ? Est-ce que c'est pour l'intérêt général ? Est-ce que c'est un bien public ? Donc je fais encore l'innocent, c'est pour qui ?
Donc c'est évidemment, comme ma collègue vient de parler, c'est pour la culture du maïs, les gros céréaliers. Sachant que le maïs, c'est pas que le maïs semence, c'est le maïs qui est destiné au bétail. Donc c'est pas nous qui allons manger ce maïs-là, c'est les bétaux, les animaux qui sont dans la grosse industrie, dans des fermes industrielles. L'agriculture de business et le maïs, la culture du maïs prend un quart de l'eau d'irrigation française. Et par contre, moi ce que j'ai vu en discutant autour de moi avec des agriculteurs de la Confédération paysanne, un maraîcher par exemple qui me disait, lui il a cotisé pour construire ses mégabassines et par contre, il a pas droit à cette irrigation-là. C'est une irrigation privatisée pour les plus gros. Et lui, par contre, il a son puits. Il doit irriguer au compte-gouttes ses légumes qui vont directement être consommés par la population locale. Et son puits, en fait, il va le voir baisser. Il n'a aucune assurance que son puits ne sera pas asséché parce que c'est les mêmes sources qui alimentent son puits, c'est les mêmes nappes. Donc, il ne sait pas.
Alors, d'un côté, on va y venir, des structures particulièrement importantes qui sont financées par l'argent public. On va y revenir dans le détail. Et de l'autre, on voit que finalement, on est dans la privatisation de l'eau pour certaines grosses exploitations qui sont surtout liées finalement au marché international et à l'exportation en particulier. Pour le maïs, donc finalement, cette eau qui devrait être un bien public, ça devient un bien privé pour quelques-uns. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ?
C'est ce qu'on a vraiment compris pendant ces trois jours là-bas.
Il y a un accaparement de l'eau pour certains gros agriculteurs qui, eux, vont pouvoir profiter de cette eau-là, alors qu'on ne sait absolument pas l'état des ruisseaux on ne sait absolument pas l'état des ruisseaux, quel sera le débit d'eau des ruisseaux après pompage dans la nappe phréatique, alors que plein d'agriculteurs, de petits agriculteurs, n'auront pas le droit d'irriguer avec l'eau des bassines, mais n'auront peut-être plus la possibilité d'irriguer avec les ruisseaux.
Et la Confédération paysanne, d'ailleurs, ils disaient que ils essayent, en fait, une de leurs revendications par rapport à ce mouvement, c'est qu'ils essayent de faire à ce que la gestion de l'eau soit qu'on fasse participer en fait les citoyens et tous les agriculteurs plutôt que une petite minorité de gros agriculteurs et d'industriels qui sont spécialisés dans la construction de barrages et donc maintenant de méga bassines quoi.
Alors moi je fais un peu la contradiction parce que je suis un petit peu obtus et je comprends pas que vous me disiez que finalement c'est pour quelques-uns alors que je vois qu'il y a des subventions européennes énormes. Donc quand on parle de subventions de l'argent public, ça doit être pour le public, pour financer ces ouvrages. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement de l'argent public? Il va où? Il va pour quelques-uns, pour ces méga-bassines, ou est-ce que le petit maraîcher dont tu parlais tout à l'heure peut obtenir des subventions publiques pour pouvoir, par exemple, construire un lac collinaire qui va récupérer l'eau de pluie? Comment ça se passe?
Il y a 70% du budget que représente la construction d'une méga-bassine, 70%, est financé par l'État. Donc, financé par le contribuable. Mais est estimé à 5% les agriculteurs irrigants qui pourraient prétendre à utiliser l'eau des méga-bassines.
Bon, évidemment, les petits agriculteurs aussi, ils ont droit à des subventions pour s'équiper, pour monter des serres, pour avoir de l'irrigation, etc. Mais ce n'est pas le même budget, évidemment, parce que c'est des petites quantités. Ce n'est pas le même budget qu'un gros, une grosse méga-bassine avec du béton sur 15 hectares et du liner dessus, enfin, qui place, c'est, en plus, on plastifie tout ça, quoi. Les budgets sont totalement... Je n'ai pas les chiffres là, en tête, mais c'est disproportionné, quoi, c'est hallucinant, quoi.
Oui, alors j'ai compris que pour le Tarn-et-Garonne, il y avait eu un accord de passé à la suite du drame de Sivens, un accord intéressant puisque il était pratiquement unique dans le pays pour le et réalisé dans le 82 sur le fait qu'il fallait justement pouvoir faire en sorte que les petits agriculteurs et les maraîchers puissent avoir accès, notamment à des aides publiques dans le domaine. Avec des projets qui respectent l'environnement, tels les lacs collinaires qui sont directement en rapport avec l'exploitation et qui n'utilisent que l'eau de pluie l'hiver, mais qu'il a pour se pointer quelques difficultés très concrètes pour leur réalisation dans un avenir proche et qu'on risquait fort de se retrouver dans des situations de conflit dans le Tarn-et-Garonne, précisément dans le cadre du respect de cet accord. Donc là, on risque fort d'avoir dans les mois et les années qui viennent des problèmes de conflit précisément par rapport à cet accord qui est un accord relativement historique qui prévoyait justement que l'eau reste un bien public et qu'il soit dirigé dans le sens de ceux qui en ont besoin. Et je pense en particulier aux petits agriculteurs. Alors dans cette bataille qu'on a ciblée là autour des méga-bassines, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, puisqu'on nous présente à la télé que des ultras. Alors qui est contre et qui est pour? Est-ce que ce sont seulement des gens qui seraient violents, qui seraient contre? Dites-nous-en un peu plus.
Alors absolument pas. Hein. Déjà, en fait, ce qui s'est passé lors de cette manifestation, c'était, il y avait quelque chose d'assez magique. Les gens étaient là par déterminés, mais pacifistes. Il y a eu des prises de parole avant la manifestation qui a appelé à rester pacifiste, qui a appelé à faire attention aux cultures justement qui étaient sur le trajet de la manifestation. Il y avait énormément de gens présents, plus ou moins avec des étiquettes. Il y avait donc la Confédération paysanne, Bassine Non Merci et les Soulèvements de la Terre qui étaient les organisateurs qui bien sûr étaient là, mais il y avait aussi beaucoup d'élus. Il y avait Europe Écologie Les Verts, il y avait la France Insoumise, il y avait les communistes, puis il y avait des organismes et associations comme Greenpeace, après des organisations un peu plus... il y avait, pardon, Alternatiba aussi, il y avait après des organisations un peu plus... Un peu plus déterminé comme Extinction Rébellion, et il y avait des syndicats, donc la CGT, la CNT, voilà, donc il y avait quand même énormément de gens qui étaient là, tous réunis sur cette question-là, et qui, pour le coup, eux, sont des gens, clairement, qui affirment être contre ce projet-là, qui, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais qui a été quand même testé depuis des années en Espagne, et où ils se rendent compte, quelques années après, que ça dessèche les terres. Voilà. Mais la France continue, malgré l'exemple de l'Espagne, continue à injecter de l'argent sur ce grand projet inutile, en fait. Les gens qui sont pour, et que bien sûr nous n'avons pas vu, mais principalement il y a la FNSEA qui défend un modèle d'agriculture, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture du profit, l'agriculture productiviste, qui en fait, là clairement, sur la question des méga-bassines, on voit bien deux modèles d'agriculture qui s'oppose.
Il y a aussi les constructeurs de barrages qui sont pro-bassines, évidemment. Moi, sur ce que j'ai vu aussi à Mel, en parlant un petit peu avec les gens, c'est à Mel, en fait, beaucoup de gens nous disaient merci d'être là, merci d'être venu, il faut avoir du courage, etc. Il y a des gens qui m'ont dit aussi un petit argument pro-bassines, c'était que dans les Charentes-Maritimes, dans les Deux-Sèvres, c'est le Marais Poitevin, ils ont beaucoup d'eau, mais ils veulent garder l'eau parce que tout part dans les Charentes-Maritimes. Et c'est marrant parce qu'ils ne parlent pas du département de Vienne, qui est juste avant, s'ils faisaient pareil, ils auraient moins d'eau, etc. C'est assez rigolo. Et ils parlent aussi qu'avant les années 2000, pendant les années 2000, il y avait 22 millions de mètres cubes d'eau qui étaient... utilisé pour l'irrigation, et que là ça réduirait à 11 millions les méga-bassines, mais ils ne prennent pas en compte ce qu'on a parlé d'évaporation, des sécheresses hivernales, etc. Et aussi le Marais Poitevin, c'est la plus grande zone humide de France, et elle est en train de s'assécher depuis qu'on fait de l'agriculture intensive. C'est assez énorme, quoi.
Donc modification importante, finalement, de notre, si on peut dire, de notre paysage, puisque si on prend de l'eau d'un côté, on la retrouve pas de l'autre. Alors, le sujet qui vient tout de suite derrière, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ce qu'on a vu à la télé? Est-ce qu'il n'y a pas eu une concertation préalable avant ces manifestations? Puisqu'on nous parle des manifestations violentes, en tout cas on nous les présente comme ça, mais il y a sans doute eu des choses avant, puisqu'on ne peut pas en arriver à cette situation, j'allais dire un petit peu par surprise, quoi.
Alors, la question des méga-bassines, ça fait un an et demi qu'elle est soulevée, et le collectif Bassines Non Merci sont dans de la lutte. Là, c'était la quatrième manifestation. Le but de la manifestation, en tout cas cette fois-ci, le but de la manifestation était de pouvoir accéder aux bassines, à la bassine, de pouvoir se mettre dedans et symboliquement de se mettre dedans pour demander un moratoire sur l'eau, moratoire qui est demandé par la Confédération Paysanne et par d'autres collectifs, et à chaque fois la réponse du gouvernement est négative. Là, on est parti d'un petit village Vanzé à pied, on était 30 000. On a marché sur les petites routes en faisant très attention, aux cultures qu'il y avait de part et d'autre de cette route, dans l'idée d'arriver jusqu'à cette bassine qui était à 11 km. Pendant 11 km, on n'a pas vu de présence policière. La manifestation était très conviviale. Les gens discutaient, chantaient. Il y avait une batucada qui était là. Il y avait donc trois cortèges qui partaient parce que dans l'idée d'arriver de part et d'autre de la bassine, pouvoir peut-être même faire un, pourquoi pas une chaîne autour de la bassine aussi. Et c'est, ce n'est que arrivé au pied de la bassine, enfin à 50 mètres, 100 mètres de la bassine, qu'on a découvert un cortège énorme, un cortège...
Une ceinture, carrément. Ils avaient ceinturé la bassine sur toute sa périphérie de camions, c'était des camions de militaires, de l'armée, de transport de troupes, et des bus et des voitures de la gendarmerie nationale, et avec des CRS entre eux.
Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y avait à protéger ? Parce que quand il y a une réponse aussi forte, finalement, de la police ou de la gendarmerie, c'est qu'est-ce qu'il y a à protéger ? Moi, j'ai compris qu'il n'y avait rien à protéger. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Il y avait donc cette bassine qui est énorme, en fait. De loin, ce qu'on voyait, c'était une espèce de gros talus énorme. Donc bon, on n'a pas pu s'approcher, et on sait qu'à l'intérieur il y a quoi, il y a du béton, donc c'est impossible à casser, même si on avait pris des massettes.
Elle n'était pas terminée, cette bassine, c'était juste un trou.
Ah non, on voit le barrage, elle est quasiment terminée, hein. De l'autre côté, on n'a pas pu voir s'il était béton ou quoi, mais nous...
Mais il n'y avait rien à casser, de toute façon.
Il n'y avait rien à casser, puis de toute façon on n'aurait rien pu casser, parce que même si on avait pris une masse, on ne peut pas casser des tonnes de béton avec une masse, quoi.
D'accord. Donc l'argument de la défense d'un bien public ou privé, il ne tient pas.
Mmh. Et ce qui est hallucinant aussi, c'est qu'à peine arrivé, en fait, on était très loin de la bassine, on voyait à peu près de loin qu'il y avait des camions, et il y avait déjà des troupes sur des quads qui ont déjà envoyé des grenades sur les cortèges, alors qu'on était juste en approche. Heureusement, le vent était avec nous, on était du bon côté du vent, donc le gaz est parti sur eux. Les quads se sont repliés vers le bastion qu'ils avaient protégé. Et puis à chaque mètre qu'on avançait, on était vraiment à trois champs. On a traversé trois petits chemins à travers champs, là. Je ne sais pas combien de mètres c'était, mais les grenades pleuvaient, les grenades de gaz lacrymogène sur... Donc, j'imagine qu'ils ont planté énormément de plastique là, dans ces champs. Les agriculteurs ne devaient pas être très contents quand ils vont aller travailler les champs, mais ils vont récupérer tout plein de grenades partout. Et puis le gaz, j'imagine que ce n'est pas très bien non plus pour les pousses qui poussent les nouvelles plantes.
Certains manifestants ont quand même ramassé les grenades tirées par... les gendarmes. C'est pas réellement, pour revenir à ce que tu disais, c'est pas réellement un bien public. Il y a une finance publique pour faire les méga-bassines, mais elles vont profiter qu'à une infime partie de personnes. Donc il y a un réel accaparement de l'eau. Ils ont défendu un trou qui n'est pas fini. Mais ils ont surtout défendu un modèle d'agriculture.
Oui. Alors, c'était ma question, justement. Est-ce qu'on peut justifier par cette répression policière qui a été considérable, et vous allez y revenir, par simplement la défense d'un trou avec une dalle en béton, quoi. C'était ma question. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion quelque part ?
Complètement, oui. Oui, c'est vraiment disproportionné de voir tous ces gendarmes qui étaient là juste pour une petite balade dans la nature. Bon, il y avait 30 000 personnes, évidemment, qui étaient là. Ça, c'était une surprise pour les organisateurs. Mais voilà, ce qu'ils disent, c'est qu'on entend parler d'écoterrorisme. D'ailleurs, nous, quand on s'est fait fouiller à maintes reprises avant d'arriver sur les lieux, on a demandé, parce que moi, tu sais ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais des lunettes, parce que évidemment je savais qu'il y aurait des gaz, je suis pas quand même assez naïf, et pour me protéger, j'avais pris avec moi des lunettes, et on me les a confisquées lors d'une fouille, de mon sac à dos. Et je demandais pourquoi, est-ce que c'est dangereux, c'est une arme. Et effectivement, ils m'ont donné un arrêté préfectoral qui disait qu'il y avait différents cas. Le premier cas, c'était qu'il y avait des terroristes qui étaient présents sur les lieux. Et donc, ils nous ont justifié que c'était une arme défensive contre les gaz qui allaient être utilisés à ce moment-là. Donc, il fallait me l'enlever pour que je rentre chez moi plutôt que...
D'accord. Donc les lunettes sont des armes, c'est ça ?
Voilà, des armes défensives, de protection.
C'est intéressant à savoir. Et je suppose que le collier est une arme aussi, ça devait être sur la liste.
Oui, ils m'ont laissé. Ils ont compris que j'avais pris ça quand même pour moi. Ils m'ont dit, vous avez bien fait de les prendre.
D'accord. Alors sur cette disproportion, est-ce qu'on peut peut-être aller jusque justement, vous étiez sur place, qu'est-ce que vous avez constaté sur les victimes, enfin par rapport aux victimes, puisqu'on a vu qu'il y en avait beaucoup.
Alors on n'était pas encore arrivé. Il y a plusieurs cortèges qui sont arrivés en fait de façon différée. Le premier cortège a arrivé, le cortège bleu. On le voyait arriver et il arrivait déjà dans un nuage blanc de lacrymo. Moi, je faisais partie du deuxième cortège où quand on est arrivé, la garde montée, il y avait la garde montée aussi, qui ils sont partis forcément avec les grenades des encerclements et toutes les détonations. Je pense les pauvres chevaux, voilà. Nous, on est arrivé pareil dans un nuage de gaz lacrymogène et très rapidement. Alors moi, j'étais pas sur une ligne devant du coup, mais j'étais sur une ligne un peu plus en retrait. Très rapidement, on a commencé à appeler les secours. On voyait des gens porter des blessés, hurler médic. C'était assez fou, et on a passé notre temps moi là où j'étais, à dire attention, il y a une grenade qui arrive, ici un blessé, et à orienter les médecins et les infirmiers qui étaient sur place et qui ont fait un super taf pour qu'ils repèrent dans toute cette foule qui était blessée et qui est là où il fallait intervenir.
Alors, la question qui fait débat aujourd'hui, et notamment qui met en accusation la Ligue des droits de l'homme qui était là en tant qu'observateur, est-ce que vous avez vu, oui ou non, les gens du SAMU pouvoir intervenir dans le délai, ou est-ce que véritablement vous avez des infos sur le fait qu'ils n'ont pas pu intervenir, puisqu'on voit que c'est un grand sujet qui paraît aujourd'hui dans les médias.
Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment surprenant et très dur à avaler sur le moment. Alors je n'étais pas au front, j'étais derrière. Ce que je faisais en fait, ce que je m'étais mis pour mission, c'était d'éteindre toutes ces grenades de gaz lacrymogène qui arrivaient pour que les gens qui étaient un peu plus devant moi ne les respirent pas, quoi. Ce qu'on a vu quand même, c'est on s'est rapproché et puis on a vu des jeunes partir, les médics qui étaient là. Alors les médics, je les salue, c'est vraiment très courageux.
Alors les médics, c'est finalement...
Alors les médics, ce sont des manifestants qui savent faire du premier secours. Dans la vie de civils, ils sont soit infirmiers, soit pompiers.
Des professionnels de santé volontaires.
Sont venus avec les manifestants. On appelle ça les médics, sur les manifs, il y en a tout le temps. Et puis il y avait la Ligue des droits de l'homme aussi. À un moment donné, je les ai vus de se rapprocher des policiers pour essayer de parler avec eux. Ce qu'il y a, c'est que on a appris plus tard en fait que le SAMU ne pouvait pas, avait eu l'interdiction de venir. De la gendarmerie avait interdit, la préfète avait interdit le SAMU de venir. Et moi, ça me fait directement penser à la Convention de Genève. Alors j'ai cherché ça, quelle année la Convention de Genève a été signée? C'était le 22 août 1864, et il avait été écrit qu'elle commande la réglementation de la Convention de Genève, que tous ceux qui souffrent soient secourus et soignés sans aucune discrimination, et que leur dignité soit respectée. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas été appliqué, quoi. On est en France, et c'est la population civile, des citoyens qui sont maltraités par leur propre... forces de police, qu'on appelle ça les forces de l'ordre normalement, Voilà, et, donc ces citoyens-là ne sont pas aidés. Alors moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on décrit donc ces manifestants d'éco-terroristes, d'ultra-gauche, etc. Ce sont des gens armés, organisés, etc. Moi, ce que j'ai vu comme personne armée, j'ai vu des jeunes super motivés. Il y en avait certains qui avaient des casques, des masques à gaz pour se protéger. Il y en avait certains, mais très peu, qui avaient des pantalons un petit peu amitouflés avec des coques pour les hommes, des genouillères, mais très peu, très rares. Et la plupart des jeunes qui étaient là, ils avaient rien du tout, quoi. Ils avaient juste un jogging, un kawé parce que il allait pleuvoir. Il pleuvait à ce moment-là. Ils n'avaient aucune protection face à ces grenades-là. Il y a donc sur les 200 blessés que les médics ont tenté de soigner, il y en a quand même 40 qui étaient graves. Il y a une personne qui a perdu un œil. Il y a un autre qui risque de perdre son œil. Il y a une personne qui a perdu l'usage de son pied. Une autre personne qui a eu la mâchoire arrachée. Il y a d'autres mutilés aux jambes, aux mains. Et il y a eu des atteintes à l'ouïe aussi. Et il y a une personne qui a été touchée par une aile bidée à la trachée aussi. Et on parle aussi d'une personne qui est encore en grave trauma, qui est encore dans le coma. Et lui, il a été touché par une grenade GM2L. Et alors lui, ça a été prouvé parce que c'est Libération qui avait un drone. Et c'est grâce au drone du journal Libération qu'ils ont pu détecter quelle grenade a explosé à côté de ce manifestant. Et c'est grâce à ça. Et là, je reviens, je fais un petit...
Alors,
petit
si, truc. Si j'ai bien compris, cette personne-là est toujours, à l'heure où on enregistre, entre la vie et la mort, il faut le savoir.
Il est dans le coma, voilà. Il a un traumatisme.
C'est un jeune de Toulouse.
Voilà, un traumatisme crânien, c'est dénommé Serge. Alors là, je fais un petit aparté sur Darmanin, qui a fait un dernier communiqué. Il a dit que la police ne pouvait pas utiliser des drones, mais que les manifestants avaient des drones. Mais en fait, les drones qui étaient sur place, c'était les drones des journaux, des médias. Donc Libération, qui est grâce à cette vidéo, on a pu voir quelle grenade a touché Serge. Il y avait aussi un drone de Mediapart, un drone du journal Le Monde, et un drone d'un YouTuber qui s'appelle Partager, c'est sympa. Donc en fait, les manifestants n'avaient pas de drone, contrairement à ce qu'a dit Darmanin. Par contre, Darmanin n'avait pas de drone de la police, mais il y avait des hélicoptères qui filmaient tout, et ils ont les moyens de zoomer et de voir tout ce qu'il faut voir, quoi.
Donc là, on est dans une situation extrêmement inquiétante. On va peut-être... terminé là-dessus, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, c'est qu'on voit qu'il y a une disproportion des moyens de répression policière sur, finalement, la garde d'un trou où il n'y avait strictement rien à défendre, en tout cas sur le plan matériel. Et je fais la liaison avec ce qui se passe quand même depuis quelques semaines sur les manifestations, sur les retraites, où on voit également que ce soit Albi ou dans d'autres régions de France, ou Toulouse, hein, que finalement il y a une volonté finalement d'en découdre par rapport aux manifestations, et qui inquiète à juste titre, hein, la Ligue des droits de l'homme l'a dit, mais pas seulement elle, qui inquiète à juste titre sur le droit de manifester, et le droit finalement de s'exprimer, puisque sur les retraites, tout le monde sait que la majorité de la population est contre l'allongement de la durée du travail, et sur ces questions d'environnement, on voit qu'une large part de la population souhaite finalement de mettre en place d'autres modèles de société, et en particulier sur la gestion de l'eau, que ça reste un bien public, que ce qui est en place ou en train de se mettre en œuvre. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être rajouter un mot sur le Tarn-et-Garonne.
Oui, on parlait tout à l'heure d'un petit barrage dans le Tarn-et-Garonne. Il y a bien une charte qui a été signée par l'ensemble des acteurs agriculteurs et le conseil départemental par rapport à la gestion de l'eau dans le Tarn-et-Garonne, une charte qui est assez exceptionnelle parce qu'elle n'est unique en France. Elle a été signée donc par, entre autres, la Confédération paysanne et la FDSEA, donc Fédération départementale, donc la branche de la FNSEA. Cette charte est là après des années et des années de concertation. Et elle est aujourd'hui, pas remise en question, mais en tout cas, on ne sait pas comment elle va être appliquée au vu des dernières déclarations de M. Bailey, qui vient de prendre en charge la gestion de l'eau au niveau départemental.
Donc, quelques inquiétudes aussi pour le Tarn-et-Garonne sur cette question. Est-ce que l'eau doit être un bien public ou réservé finalement à quelques-uns avec les subventions publiques, on n'est plus à ça près, hein. Et est-ce que la police en général est là pour protéger la population, j'allais dire, ou le contraire, puisque je n'exagère pas de ce qu'on peut constater dans la période. La police républicaine est là pour protéger la population. Ça ne se vérifie pas dans les dernières manifestations, que ce soit sur celle pour l'environnement, pour l'eau ou pour les retraites. Donc on a quelques soucis de ce côté-là. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ?
Peut-être saluer quand même aussi toutes les équipes qui ont accueilli l'ensemble des manifestants et l'ensemble des personnes qui étaient là pour intervenir sur le Festival de l'eau. Il y a une gestion superbe, hyper conviviale et très généreuse qu'on ne salue pas forcément beaucoup dans les médias. Et dire aussi qu'au moment de la manifestation, par rapport à l'arrivée des secours, quand on a pris conscience qu'il y avait un blocage, cette gestion-là a été également superbe et hyper humaine, en nous demandant d'arrêter de se regrouper. Donc ça, c'était à 14h, et on s'est réellement regroupé. Le SAMU... Donc il n'y avait plus de tir de grenade, il n'y avait plus de violence à ce moment-là. Et le SAMU n'est arrivé qu'à 15h10.
Et oui, et pendant tout le Festival de l'eau, toute la nourriture était à prix libre. Il y avait plus de 200 bénévoles qui s'étaient inscrits, qui ont participé. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont donné des légumes de la Confédération paysanne. Et on avait de la nourriture, on avait des boissons... C'était vraiment génial. Et puis la mairie de Mel aussi, ouais, qui avait donné plein de terrain pour faire du camping, le camping municipal, etc. Pour cet événement-là, c'était voilà, très bien. Quoi.
Donc ça a bien failli être pacifique, solidaire, chaleureux. Et la fête a été gâchée par les grenades lacrymogènes, les tirs de LBD et les grenades de désencerclement. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Et les blessés graves. Oui. Voilà, je remercie donc mes deux interlocuteurs d'avoir témoigné en direct de cette situation, en réfléchissant bien au fait qu'il faut aussi agir pour que ce genre de situation dramatique se reproduise pas dans le Tarn-et-Garonne ou ailleurs.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Kélus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Oh.